chemin, un monde ayant tombé la main, un rebile attendait son pain, que quelques hommes qui jetaient pour se calmer le cœur. Entendant Jésus passer, la femme se mit à crier, les autres le reprenaient pour le faire taire, mais il criait au plus fort. Aie pitié de moi, que je recouvre la vue, enfin me revoir. L'aveugle fut vers Jésus qui demanda : que veux-tu que je te fasse ? Aie pitié de moi que je recouvre la vue. Quand même je vois des hommes qui savent donner, souffrir et s'aimer. Enfin, messieurs, vois-je que sans hésiter. C'est toi qui me conduis à donner, souffrir et s'aimer.
Tu as lu Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. C'est Paul qui parle, il dit : je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Vendredi soir, je vous disais que nous sommes la lumière du monde. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jésus qui le dit. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il était la lumière du monde pendant tout le temps où il était sur cette terre. Et maintenant, il est monté au ciel. Il a répandu de son esprit. Il vit en nous maintenant. Il dit, maintenant, c'est vous la lumière du monde. De même, nous sommes le sel de la terre. Vous croyez ça? Oui, moi aussi, il faut la foi, hein. Mais s'il l'a dit, c'est que c'est vrai, c'est à moi de découvrir les choses qui me concernent, et c'est à vous de découvrir les choses qui vous concernent. C'est ce que chaque disciple de Jésus-Christ est. Vous l'êtes, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, vous êtes le sel de la terre. Si l'Esprit de Dieu vit en vous, vous êtes la lumière du monde. Alors, il y a de quoi être fier. Vous êtes fier ce matin ? Est-ce que vous êtes fier d'être disciple de Jésus-Christ? Fier d'être membre de son Église restaurée de la fin des temps? Est-ce que vous êtes fier de cela? Fier de porter le beau nom de Jésus? Êtes-vous fier de porter le nom de Jésus? Le problème, c'est qui a cette connaissance? Vous savez que vous portez le nom de Jésus. Mais qui sait que vous portez le nom de Jésus? Ceux qui vous voient vivre, ceux qui entendent votre témoignage après vous avoir vu. Ceux-là savent que vous portez le nom de Jésus-Christ. Même s'ils rejettent le témoignage, ils peuvent le rejeter simplement parce que ils ne veulent pas consacrer leur vie. Alors, ils vont dire, oh, sans doute, ça n'est pas vrai. Sans doute, vous avez été manipulé par un gourou qui vous fait croire des choses. Enfin, ils peuvent avoir toutes sortes de raisons pour ne pas s'engager à suivre Jésus-Christ, celui que vous aimez tant. Mais n'empêche qu'au fond de leur cœur, Dieu voit qu'ils savent. Ils savent. Parce que vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, quand on la voit, on la voit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mes frères et sœurs. Ils savent à qui vous êtes unis. Ils savent à qui vous avez été fiancés. Ils savent que Jésus-Christ est votre sauveur, mais plus, il est votre Seigneur. Il douterait qu'il est votre sauveur s'il ne voyait pas qu'il est votre Seigneur. C'est-à-dire, celui qui dirige votre vie. Parce qu'il voit que votre vie porte sa marque. Il y a des choses que vous ne faites pas, il y a des choses dont vous vous éloignez. Ils le voient au début, ils peuvent trouver ça bizarre, mais avec le temps, ils se disent, bon, ça a l'air sérieux quand même depuis tant d'années, et ils sont toujours fidèles. Et dans le temps, vous pouvez en gagner à Jésus par votre fidélité. Vous êtes le sel de la terre, et vous êtes fiers de porter le nom de Jésus-Christ, le nom de votre époux céleste. le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent, nous louons le nom de l'Éternel, notre Dieu. On a même un chant qui dit, je louerai, mais jamais le nom de Jésus est prononcé. Prononcez le nom de Jésus-Christ. Je me rappelle toujours, ça faisait quelques semaines que j'étais converti, et on était en Suisse, assis dans un champ, c'était l'été, c'était au mois de juin, il faisait chaud, et j'étais avec ma petite fiancée de l'époque, qui s'appelait Claire-Lise, et j'étais là aussi avec un ami qui s'appelle Fritz Blaser, dont je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, mais en tout cas, s'il n'est plus ici, je sais où il est. Et on était assis dans un champ, c'était magnifique, vous voyez la Suisse comme c'est beau, il y a des très beaux champs en France, mais en Suisse, l'herbe est plus verte. Et on était assis là, et puis on priait. Et tout à coup, après la prière, le frère Fritz Blaser a dit, « Pourquoi vous ne dites jamais Jésus ? Vous dites toujours le Christ, le Seigneur, mais dites Jésus. » Et j'avais été étonné par cette réflexion. C'est la première fois que je prenais conscience qu'il y a une démonstration d'amour et de fierté ou de honte à prononcer le nom de Jésus. Moi, ça, j'avais un peu honte de ce nom. Je trouvais que, déjà, Michel, je trouvais que c'était pas un nom très masculin. Mais alors, Jésus, je trouvais que ça faisait nian-nian, pour pas dire yan-yan. je trouvais que Jésus, ça faisait bzz-bzz. C'était pas très viril comme nom, hein. Moi, j'aime bien les noms. Je trouve que c'était pas un nom de mec, quoi. Et c'est pour ça que je disais toujours le Christ et tout. Puis, il m'a dit non. C'est dans le nom de Jésus, c'est le seul nom qui était... Alors j'ai réalisé ça et je me rappelle toujours, ça devait être, je sais pas moi, le 13-14 juin, puisque je venais de me convertir, et tout de suite, il m'a mis le doigt là où il fallait. Et depuis, j'ai plus jamais dit le Christ. De temps en temps, je dis le Christ, mais je dis Jésus, le Christ, mais je dis Jésus, Jésus, portez le nom de Jésus. Et comme Paul, vous pouvez dire, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas honte de Jésus, de son nom, de porter son nom, vous n'avez pas honte de porter son évangile, vous n'avez pas honte de son évangile. Vous n'avez pas honte parce que vous le connaissez. Beaucoup de gens ont honte. Voilà, oh, l'évangile, pour eux, ça fait bonne sœur à la peau parcheminée, ça fait un peu poussière grise dans une église, ça fait... Mais non, l'évangile, c'est autre chose. Quand on connaît l'évangile, on n'a pas honte de l'évangile. C'est une véritable puissance, l'évangile. Vous connaissez l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Connaître la bonne nouvelle. Vous connaissez les enseignements de cette bonne nouvelle, les alliances de cette bonne nouvelle. Vous connaissez les promesses, les lois qui sont attachées à cette bonne nouvelle. Vous connaissez tout ça, vous savez, c'est un trésor. Vous le savez que c'est un trésor. Les gens ne savent pas que c'est un trésor. Mais vous le savez parce que vous le connaissez. Ceux qui ne connaissent pas ne peuvent pas savoir. C'est d'une logique imparable. Vous savez que cette bonne nouvelle vous offre une pleine sécurité. Je me tais juste pour me rendre compte que, dans le fond, j'aimerais bien que vous fassiez autre chose que vos jeux vidéo, s'il vous plaît. Vous êtes au culte, là. Alors, vous lâchez vos SMS, vous lâchez vos machins, puis vous écoutez la parole de Dieu. Un jour, vous me remercierez de vous avoir dit ça. Aujourd'hui, là, vous pensez que je suis un vieux grincheux. Mais un jour, vous me remercierez de vous avoir dit, écoute la parole de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils sont où aujourd'hui? Écoutez la parole de Dieu. Non, je ne suis pas un vieux grincheux. Je suis fier de l'évangile parce que je sais ce que l'évangile peut faire dans une vie et je sais ce qui se passe quand on abandonne cette fierté de l'évangile, quand on abandonne ce message de l'évangile. C'est pour ça que je vous dis ce matin, laissez tomber ces SMS, arrêtez. C'est pas une loi. C'est quelque chose que je veux que ça soit du respect. Ne serait-ce que pour moi. Et au travers de moi, pour Jésus qui parle au travers de moi. Vous compris? Et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez demander à vos parents s'ils sont d'accord. Vous verrez lesquels sont d'accord et lesquels ne sont pas d'accord. C'est important. Cet évangile nous apporte une pleine sécurité, une assurance que rien ni personne ne peut nous ôter. Rien. Vous savez que le contenu de cette bonne nouvelle, La Bible nous dit, Paul nous dit que c'est une puissance de Dieu, c'est une des puissances de Dieu. Dieu se manifeste de toutes sortes de manières, mais l'évangile, c'est une de ses grandes puissances pour votre salut. Bien sûr que pour notre salut, c'est Jésus sur la croix, mais comment le saurions-nous si nous ne savons pas, si nous n'avions pas l'évangile, si nous n'avons pas, si cet évangile ne nous avait pas été transmis? C'est la puissance du salut pour quiconque croit dans cette bonne nouvelle, mais encore faut-il la connaître. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Et ça, ça crée en vous une confiance qui est le résultat de vos efforts diligents et volontaires à rester dans cette alliance. C'est pas parce que vous écoutez, c'est déjà très important d'écouter, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce que vous écoutez que vous êtes des disciples. Mais alors déjà, si vous écoutez pas, alors qu'est-ce que vous croyez que vous allez être? Rien du tout. Vous allez être comme le monde. La chair à canon. Bon pour l'enfer. Alors écoutez, puis ensuite après avoir écouté, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique si vous connaissez pas? Vous dites, je suis un vieux ronchon? Un jour, vous me direz merci. J'espère que ce ne sera pas quand je serai dans le trou, puis que vous serez là en disant, oh, quand même, on était bêtes, on aurait dû écouter un peu plus. Ouais, ouais. Comme tout le monde fait, mais vous n'avez pas le droit d'être comme tout le monde. Parce que vous avez été choisi par Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été choisi par Dieu. Respectez cet appel que Dieu vous a fait de pouvoir être là aujourd'hui. C'est un privilège. Restez dans cette alliance. Ça nous oblige à être ferme dans notre position, à tenir ferme dans notre position, pour que rien ne puisse nous nuire. Parce que si on n'est pas ferme, tout peut nous nuire. Tout peut nous nuire. Vous connaissez l'évangile, vous savez, vous connaissez qu'il n'y a rien qui peut vous nuire, sinon vous-même. Ah. Vous-même. Personne, même le diable peut rien contre vous. Même le diable qui rugit autour de vous, cherchant à vous déstabiliser, peut rien faire. C'est vous. C'est vous qui tenez tout. Vous connaissez les frontières du royaume, parce que l'évangile de Jésus-Christ nous enseigne où sont les frontières du royaume de Jésus-Christ sur cette terre. Il y a des frontières. Ce royaume, c'est un peu comme le jardin d'Éden. Il y avait des frontières. En dehors, il y avait le bien et le mal qui régnaient déjà, mais dans le jardin d'Éden, c'était le paradis, et il fallait que Adam et Ève gardent et cultivent cet endroit. Eh bien, nous sommes dans le royaume de Dieu pour garder et cultiver cet endroit, pas pour laisser n'importe quoi et n'importe qui venir souiller et faire n'importe quoi dans ce jardin. Non, monsieur, non, madame, c'est interdit. Vous êtes dans le jardin, vous n'êtes pas dans le jardin. Si vous êtes dans le jardin, vous êtes des protecteurs du jardin. Parce que vous êtes fiers de ce jardin. Parce que vous voulez pas que ça soit un endroit où les gens viennent se balader, se promener avec toutes leurs idées, leurs saletés, leurs machins. Non, c'est un endroit particulier, le royaume de Dieu, là où Jésus est roi. Quand Dieu est descendu une fois sur cette terre, sur le mont Sinaï, c'était impossible de s'approcher, c'était interdit de s'approcher, tellement que c'était saint. Maintenant, puisque le voile était déchiré, nous avons accès. Alors tout le monde s'approche. Pas vraiment. Géographiquement peut-être, mais pas vraiment. Pour s'approcher, il faut connaître l'évangile. Et comme vous êtes fiers de porter le nom de Jésus, vous êtes fiers du jardin, du royaume dans lequel Dieu vous a placé, parce qu'il vous a créé en dehors du jardin, mais il vous a placé dans le jardin, comme Adam. Alors, il y a des tas de possibilités qui sont offertes. Des possibilités qui viennent de l'extérieur de ce jardin, ça c'est sûr. Des suggestions, des invitations, des tentations, des choses qui cherchent à accaparer chaque minute votre attention, tout le temps, tout le temps. Alors devant toutes ces choses, devant toutes ces sollicitations de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur du jardin, est-ce que nous avons la force du disciple, de la discipline? Est-ce que l'engagement de rester connecté sur ce qui est le plus important habite votre cœur? C'est ça. Est-ce que votre décision de chercher ce qui est le plus important, ça veut pas dire que on a rien dans ce jardin, dans le royaume de Dieu, mais qu'est-ce qui est important? L'avez-vous? Pour être fort, faut être expert. On peut pas être simplement des chrétiens amateurs. Il faut être des experts. Êtes-vous aussi expert dans les vérités de l'Évangile que dans vos études? Est-ce que vous êtes aussi expert dans les vérités de l'Évangile que dans les choses concernant votre profession ou vos passe-temps ou votre sport? Alors oui, nous sommes fiers de Jésus-Christ, nous sommes fiers de son Église, mais voyez tout ce que cela veut, tout ce que cela signifie en profondeur. Est-ce que vous recherchez activement des réponses à vos questions en faisant de l'Évangile un festin pour votre âme? Est-ce que les enseignements qui vous sont donnés, c'est pour vous un festin? Lundi, on va faire un festin à la communauté. J'ai déjà goûté un petit peu de tout. Je peux vous dire que ça va être super. Et on se réjouit d'aller au festin. Est-ce que tous les jours, est-ce que le festin que vous avez, est-ce que c'est seulement le vendredi soir et le dimanche matin au culte, ou est-ce que tous les jours vous allez, est-ce que vous êtes des experts, est-ce que vous cherchez des enseignements, est-ce que vous recherchez la confirmation du Saint-Esprit sur les paroles que vous trouvez dans votre Bible pour pouvoir les adapter à votre vécu? Est-ce que vous êtes des experts? Moi, je suis frappé quand j'entends des experts. C'est extraordinaire d'écouter des gens sur n'importe quel sujet, des gens qui connaissent. Des gens qui font le geste juste. Vous avez remarqué, on parle du geste auguste du semeur. C'est un geste juste. On voit tout de suite quelqu'un qui n'est pas vraiment un semeur. Autrefois, j'ai fait un apprentissage d'ensemblier décorateur tapissier. Et on arrivait chez des clientes pour leur livrer des fauteuils, des rideaux, toutes sortes de choses. Et elles disaient, vous voyez ce petit, cette petite banquette, c'est moi qui l'ai fait. Ben oui, ça se voyait tout de suite, hein. Mais c'était très fier, hein. C'est moi qui l'ai fait. Oui. Elle avait l'air de dire, j'ai pas besoin du tapissier, regardez, hein. Mais c'était pas le geste juste, vous comprenez? C'est quelqu'un qui fait le geste juste. Vous allez chez le garagiste, il ouvre le capot. Moi, déjà, je suis surpris de voir tout ce fourbi là-dedans. Lui, il prend une clé qui s'appelle je sais pas quoi, lui, il sait. Et il fait le geste juste. Paf, 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 tac. L'autre jour, on a dû changer de batterie. Le type, il m'a fait ça, mais en moins de 30 minutes et demie, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Mais les gestes précis, il savait. Pourtant, il y a des milliers de sortes de voitures différentes. Non, il a vu la mienne, il savait tout de suite où était le boulon, tout de suite où était. Mais c'est magnifique. Être des experts. Est-ce que vous êtes des experts dans les choses de la parole de Dieu? Pas de simplement savoir quel est le nom de la sœur de Moïse, mais de connaître les choses qui vous sont nécessaires pour votre vécu, de ne pas être surpris quand quelque chose vous arrive et que vous soyez obligé de courir vers monsieur le pasteur pour demander un conseil ou courir avec votre concordance pour trouver le verset. Non, c'est là, dans votre tête et dans votre cœur, parce que vous êtes des experts, parce que vous bûchez, parce que vous aimez, parce que vous cherchez, parce que vous travaillez là-dessus, parce que c'est à vous. Est-ce que vous, c'est ça, aimer l'Évangile? C'est pas seulement dire, ah, j'aime l'Évangile, je sers dans mon cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. Ça, c'est un verset. Mais dans la réalité, vous savez, dans les pays totalitaires, c'est risqué de venir au culte. Pour nous, ici, c'est rien. On vient au culte, comme on va au cinéma, hein. La police ne nous attend pas dehors. Il y a certains pays totalitaires, et de plus en plus, il y a des pays comme ça, vous risquez la prison en venant au culte. Vous risquez la torture, vous risquez même la mort. Comment ils font? Comment ils font pour oser encore aller? Comment est-ce qu'ils font pour tenir face à l'opposition comme ça? Comment? Eh bien, ils passent du temps à acquérir la connaissance de l'Évangile. Alors on leur fait des lavages de cerveau dans les prisons. Et je me rappelle du pasteur Richard Vrombrandt, que j'avais été écouté à la cathédrale de Lausanne. Il a passé, je sais plus, je crois, c'est 12 ans dans une prison là-bas en Russie. Et il savait que sa femme était là quelque part dans la prison aussi, sa fille, il savait même pas si elle était encore vivante. Et un jour, quelqu'un lui a dit, mais comment tu arrives encore à être heureux et à sourire et à être toujours gentil et sympathique et tu n'es pas aigri? Il dit, écoute, ils m'ont lavé le cerveau, je me rappelle même plus des choses que j'ai étudiées tellement qu'ils m'ont fait un lavage de cerveau, mais je me rappelle que j'ai un père qui est aux cieux. C'est tout ce qui se rappelait. Ben, ça lui suffisait pour être fort. Et vous vous rendez compte, vous, toute la connaissance qui est à votre portée, et là, pouf, c'est posé sur un tablard, comme on dit en Suisse. Et puis, on n'étudie pas, on n'a pas cette soif. On lit juste le calendrier. Merci Rachel pour le calendrier. Au moins, il y a ça. Mais est-ce que même vous le lisez? Il faut être des experts. Acquérir de la connaissance. Parce que l'acquisition de la connaissance des Écritures, c'est un principe vital. Vous savez, la tiédeur dans le christianisme, dans nos pays libres, ça vient du manque de connaissances. C'était bouillant, il y a eu le réveil, puis ensuite c'est devenu tiède, et maintenant il y en a beaucoup même qui sont froids, puis ça finit où? À cause du manque de connaissances, mon peuple? J'aime la connaissance pour la puissance qui est donnée lorsqu'on l'exerce droitement. Cette connaissance, c'est pas simplement pour avoir le cerveau rempli pour pouvoir parler dans les salons, cette connaissance, c'est pour pouvoir la manifester dans des situations pointues, à des moments précis, et il se dégage une puissance de cette connaissance, dans toutes les situations, et en particulier quand ça va mal. Quand ça va mal. Souvenez-vous des paroles de Pierre, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, il disait que nous devons faire tous nos efforts pour rajouter la science à la force, à la vertu. Faire tous nos efforts, quels efforts faites-vous? Oui, c'est vrai, nous avons la foi, la Bible dit, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu si nous ne croyons pas dans son existence. Déjà, vous êtes approché de Dieu parce que vous avez cette foi, ce fondement, parce que ça vous a été donné, parce que vous êtes des gens du royaume, vous avez cette foi, cette assurance qu'il y a un Dieu, et puis que son nom est Jésus-Christ, c'est une fondation pour vous. Mais vous devez rajouter, faire tous vos efforts pour rajouter la vertu, c'est-à-dire la force à cette foi, parce que sinon ça sert à rien cette foi. À quoi elle sert, la foi? Il faut construire dessus. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Il faut construire sur cette foi. Sans la force, la foi, c'est que des sentiments, c'est rien du tout. C'est des convictions qui servent à rien face aux tentations, face aux difficultés, face aux chagrins. Il faut ajouter la force à la foi. Mais comment? Il faut aller la chercher là où elle est. Et où elle est? Dans le cœur de Jésus, dans la prière. Faut avoir une communion avec Dieu. Aller chercher la force dans la communion avec Dieu. Jésus faisait ça. Tous les matins, il se levait, il priait, il cherchait la face de son Père et il était rempli de force chaque jour. Parce que chaque jour, il perdait des forces. Et chaque matin, il allait dans la prière pour reprendre des forces. Et après, il allait, il marchait dans la rue. Une femme touchait son vêtement, il se retourne, il dit, une force est sortie de moi. Oui ou non? Oui. Cette force qui est sortie de lui, comment elle a pu sortir de lui? C'est parce qu'il l'avait. S'il n'avait pas eu cette force en lui, elle n'aurait pas pu sortir de lui, même à son insu. Il fallait qu'il ait cette force. Avez-vous ajouté cette force à votre foi, à votre croyance? À votre croyance? C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se mettre dans la prière, parce qu'ils n'ont pas mis le temps de chercher la face de Dieu de tout leur cœur, dans le but d'être encore plus saint, que beaucoup ont failli, parce que ils n'avaient plus la force. Alors, si vous avez cette force, vous pouvez ajouter la science, c'est-à-dire la connaissance. Impossible d'ajouter la connaissance à votre vie si, d'abord, vous n'avez pas ajouté la force à votre foi. C'est pourquoi on voit et on a vu encore ces trois derniers mois parmi nous un homme rempli de science, de connaissance. C'était quelque chose, n'est-ce pas? Mais sur quoi c'était bâti? Sur une foi de base sans force. Alors ça donne quoi? Ben ça donne rien, parce que c'est pas des matériaux. La science ne tient pas sur la foi. S'il n'y a pas le ciment de la force d'abord. Il faut que les éléments s'accordent. C'est pourquoi Pierre, il dit, c'est d'abord la foi, puis ensuite la vertu, la force, puis ensuite la science, la connaissance. Les gens, ils pensent que parce qu'ils connaissent les versets, ils connaissent... Mais non, c'est rien du tout. On peut les connaître en hébreu, en grec, en araméen, en chinois, en japonais, en tout ce que vous voulez, en verlan, ça ne vous sert à rien du tout. Votre foi réelle, oui, elle est réelle, mais si elle n'a pas cette force que vous allez puiser dans la prière, eh bien, elle ne sert à rien du tout, ni la foi, ni la science. La connaissance, elle est nécessaire à votre vie, à votre vécu et à la piété. La connaissance de l'Évangile, la connaissance des règles, les promesses, les exigences qui sont de l'Évangile, cette connaissance est la puissance de Dieu pour notre salut. Parce que l'Évangile ne dit pas seulement « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Ta, 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 ta. L'Évangile dit aussi « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. » Persévérer à quoi faire? À croire? Mais non, persévérer à construire sur ce fondement. Et comment pouvons-nous persévérer si on n'a pas cette vertu, cette force et cette connaissance? Comment? Mais comment? Alors notre déclaration, notre confession est donc, je suis fier de porter le nom de Jésus. Moi j'étais fier de porter le nom de Jésus, j'avais 2-3 semaines de conversion, je connaissais rien. Mais j'ai appris à aller chercher ma force dans le Seigneur, dans la prière. Je suis fier de connaître l'Évangile et je le vis par la force qui est en moi, qui est renouvelée jour après jour par mon Seigneur. Parce que l'Évangile est un ordre. C'est l'ordre de la bonne nouvelle, pas l'ordre dans le sens loi, mais l'ordre dans le sens de l'ordre qu'on fait dans notre chambre, par exemple. C'est de mettre en pratique et non pas se borner simplement à écouter ou à lire pour connaître. Alors, nous vivons l'Évangile, nous le mettons en pratique en faisant preuve de foi, en étant obéissant, il faut de la force pour ça, en servant nos semblables avec amour, il faut de la force pour ça. La petite poule qui dit, qui c'est qui veut venir pour labourer la terre avec moi? Pas moi, dit le dindon, ni moi, dit le canard. Bon, ben venez, mes petits, on va aller labourer tout seul. Et la petite poule, elle laboure. Qui c'est qui veut venir semer le blé dans le labour, dans mon champ? Pas moi, dit le canard, ni moi, dit le dindon. Ben venez les poussins, on va y aller, on va semer nous-mêmes. Qui c'est qui veut venir pour récolter en plein soleil le blé qui a poussé? Oh, pas moi, dit le canard, ni moi, dit le dindon. Bon, ben venez les poussins, on va y aller tous les trois, tout seuls. Qui c'est qui veut venir maintenant pour moudre le blé qu'on a récolté? Oh, ben pas moi, dit le canard, ben ni moi, dit le dindon. Ben venez, on va le moudre nous-mêmes. Qui c'est qui veut venir pour pétrir la pâte maintenant, pour faire du pain? Oh ben pas moi, dit le canard. Oui, ni moi, dit le dindon. Bon ben venez les poussins, on va faire ça nous-mêmes. Qui c'est qui veut venir pour manger le pain? Moi, dit le canard. Moi, dit le dindon. Allez vous faire voir! Voilà ce que Dieu vous dira. Allez vous faire voir! Parce que connaître l'Évangile, c'est connaître qu'il y a un ordre. C'est pas simplement croire, c'est persévérer. Et persévérer, c'est vivre. Et vivre, c'est être obéissant. Et vivre, c'est être au service des autres. Et si vous n'êtes pas au service des autres, quand il faut aller labourer, ou quand il faut aller planter, ou quand il faut aller ceci, ou quand il faut aller cela, si vous n'êtes pas au service des autres, quand vous arriverez devant Dieu pour, dehors! Je vous connais pas. Ah bon, pourquoi? Mais pourtant, tu nous as vu, tu nous as demandé si on pouvait venir pour moudre le grain et tout ça. Ouais. Ouais. Je vous connais pas dehors. Et puis, quand on fait ça, on fait que de suivre l'exemple de notre Sauveur. On a tous dit, on aime Jésus, on est fiers de Jésus, fiers de son Évangile. L'Évangile, quand on le connaît, on sait qu'il est le salut pour quiconque croit, et croire, ça implique de le connaître et d'agir dans l'intégrité, faisant ce que nous savons être juste. Alors, des fois, faire ce qui est juste, ça peut être difficile. Ça peut être des fois difficile. Des fois, quand on fait ce qui est juste, on passe pour des gens qui n'ont pas d'amour. Ça fait ça? Ah, mais si tu avais de l'amour, tu serais pas dur comme ça. Ben justement. Quand on aime, ben on est intègre. Et puis on fait les choses qui doivent être faites, on tranche là où il faut. Vous avez vu cette épée là, que mes amis gitans ont critiqué là, qui est au mur derrière moi pendant que je prêche? Eh bien, cette épée, la Bible nous dit que c'est le symbole de la parole. La parole de Dieu est à double tranchant. Premièrement, quand elle vient dans votre vie, elle coupe ce qui n'est pas bien. Mais si ça ne marche pas clair, elle vous coupe en deux. Elle se retourne contre vous. La parole de Dieu se retourne contre vous. Jésus dit, c'est pas moi qui vous jugerai, c'est la parole que j'ai dite. Donc, il faut la connaître, l'aimer, la vivre. Et la vivre, c'est pas simplement être gentil, payer ses impôts, ça, tous les païens le font. C'est plus, c'est faire le kilomètre plus. Quand on te demande de faire quelque chose, fais le double. Voilà ce que c'est l'Évangile. Alors, en tout temps et en tout lieu, nous agissons de cette manière, qu'on nous regarde ou qu'on ne nous regarde pas. Parce que Dieu nous voit toujours. Alors, bien sûr, dans notre état mortel, on n'est pas parfait. Alors, ce matin, vous dites, moi je suis venu pour me faire réconforter, puis là, j'en prends plein la tronche. Non. C'est simplement pour te dire que même en faisant des efforts, tu vas commettre des fautes. Même en faisant des efforts, tu vas faire des péchés, c'est sûr. On est tous comme ça, parce qu'on est dans une condition mortelle. Mais c'est là qu'intervient aussi la connaissance. Une connaissance qui fait qu'on ne fléchit pas, parce que l'Évangile nous dit que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons retrouver la pureté que nous avons perdue. Alors il ne faut pas se décourager, mais il faut connaître ces choses. Beaucoup de gens disent, j'ai été trop loin, j'ai trop péché, je ne peux plus revenir. Ça, c'est la pire insulte qu'on puisse faire à Dieu, croire que son amour est limité. Alors ne croyez pas que son amour est limité. Croyez ce que l'Évangile nous dit, que sa miséricorde dure à toujours. Amen. Vous croyez ça? Alors bien sûr que vous n'êtes pas parfait, bien sûr moi non plus je ne suis pas parfait. Mais si nous nous perfectionnons dans la connaissance de Jésus-Christ, alors nous pouvons venir devant Dieu avec humilité, nous repentir et retrouver cette pureté que nous avons perdue. Et c'est un processus de la vraie repentance et du pardon qui va renforcer notre détermination à mieux obéir et à mieux servir les autres. Et voilà, la boucle est bouclée, mes frères et sœurs. Soyons fiers, 1, du beau nom de Jésus-Christ, 2, fiers de connaître la bonne nouvelle, 3, fiers d'être membre de son Église. On voit le monde? Vous avez vu? On croyait que c'était la fin, là. Ah ben non, ils sont trompés, c'était pas la fin. Non, on savait bien que c'était pas la fin. Mais c'est des gens qui connaissent pas les prophéties, ils connaissent des faux prophètes. Mais connaissent... Ah oui, alors ça, pour croire aux faux prophètes, ils sont très forts. Hein? Les médias, tout le monde en parle. Mais pour les vrais prophètes, non, on n'écoute pas. Pourquoi? Ben, ils manquent d'amour, les vrais prophètes. Ils nous disent des choses désagréables, ils disent qu'il faut qu'on change de vie. Ils sont pas gentils, les vrais prophètes. Alors on voit le monde, et on voit ce qui arrive à ceux qui négligent les commandements. Regardez le monde, mes frères et sœurs, soyons fiers d'avoir pris la décision de respecter les principes moraux élevés du jardin, du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, pour ma part, moi j'aime Jésus. Vous aimez Jésus? J'aime l'Évangile, j'aime son Église, je vous aime. Et l'Esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant du Père Céleste. C'est l'Esprit de Dieu qui rend... On a tous besoin d'avoir un témoignage intérieur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous rend témoignage, c'est grave. Si vous êtes sans arrêt d'être obligé de vous convaincre par vous-même, par des raisonnements, c'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre que vous êtes fils de votre Père Céleste. Je suis convaincu par le Saint-Esprit qu'il prend soin de moi, qu'il se soucie de moi et que je suis sur le bon chemin. Ça va faire 45 ans maintenant que Jésus vit dans mon cœur et mon enthousiasme ne s'est pas usé, ne s'est pas estompé. Pourtant, j'aurais pu. Parce qu'alors, qu'est-ce que j'en ai vu dans son Église? Mais mon Dieu, des fois je dis Seigneur, vraiment, j'ai pas eu de peau moi. Mais non, c'était une bénédiction. Si j'avais pas vécu toutes ces choses-là, je ne serais pas la personne que je suis. Donc gloire à Dieu pour toutes ces choses. Mais quand même nous vivons des moments difficiles, eh bien nous sommes toujours remplis de cette grande assurance parce que nous avons ce témoignage intérieur. Quand nous devons faire preuve de patience, il est toujours là. Quand on doit faire preuve de renoncement, il est toujours là. Et on a toujours ce sentiment de sa présence avec nous, même si on ne le sent pas, on a cette foi. Et nous savons à cause de ça que nous devons recentrer nos efforts sur l'accroissement de notre connaissance de qui est Dieu par les évangiles. Parce qu'on a ce témoignage intérieur. Vous savez, mettre en pratique les principes de l'Évangile que nous aimons, c'est tout ce qui nous est demandé. C'est tout ce qui nous est demandé. Et ce n'est pas difficile. Et c'est gratifiant. Ce que j'ai appris, entre autres, c'est que l'un des principes de l'Évangile le plus efficace, parfois, il faut bien avouer aussi, le plus difficile à mettre en pratique, eh bien, c'est l'humilité et c'est la soumission à la volonté écrite de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Ma chair n'aime pas. Mais ma chair, comme je vous ai dit, c'est une vieille folle. Il ne faut pas l'écouter. C'est via renoncer. Renoncer à votre moi, renoncer à vos droits. Il y a des souffrances, c'est vrai, mais aucune ne dépasse les forces de ceux qui sont fiers de porter le nom de Jésus, fiers de l'Évangile, fier de le connaître, fier d'être membre de son Église. Les autres sont dépassés. Les autres sont dépassés. Ceux qui n'ont pas cette fierté sont dépassés. Et quand je parle de fierté de ces choses, c'est fierté en action, pas simplement sentiment de vanité, vain, idiot, de dire « je suis fier de l'Évangile ». Non, c'est de le prouver par des actes. Vous voyez, ma maman, Madeleine, est partie il y a quelques années, et il n'y a pas un jour où elle ne me manque pas. Tous les jours, elle me manque. Tous les jours, je pense à elle. Tous les jours, je me dis « tiens, ma maman, ah ». Mais vous voyez, grâce au pouvoir habilitant, vous vous rappelez cette prédication que je vous avais faite, le pouvoir habilitant de l'expiation, eh bien, j'ai reçu la force, elle est renouvelée. Le réconfort, il est renouvelé. Et la paix promise qui est renouvelée par Jésus. J'ai aucun doute de là où elle se trouve maintenant. Et j'attends avec beaucoup d'impatience nos temps de retrouvailles, réellement. Pourquoi je dis ça ? Parce que rien, même la mort, ne peut pas nous séparer de ce Jésus-Christ que nous aimons, de cet évangile que nous aimons, de cette Église que nous aimons. Rien ne peut être ôté de ce que nous avons reçu. Alors, dans notre cœur, c'est quelque chose qui est ancré. Je voudrais que ceux qui ont cette sorte de foi se lèvent avec moi et disent avec moi ce matin, en face des démons, en face des mauvais esprits, mais aussi en face des anges, en face de notre Seigneur qui nous a convoqués ici ce matin, que vous disiez avec moi ces quelques phrases. Premièrement, je suis fier d'être disciple de Jésus. Je suis fier de porter le nom de Jésus-Christ. Je suis fier de connaître son évangile. Je le vis. Je l'aime. Je dis ça humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus bénit mes frères et sœurs. Ce matin, la parole qui est sortie est une parole un peu dure. Mais je crois, Seigneur, que comme tout à l'heure nous l'avons chanté, nous avons besoin du bâton qui, de temps en temps, nous tape derrière les oreilles, mais aussi qui nous aide à nous appuyer pour marcher encore. Nous voulons être sur ce chemin, et comme disait Samuel l'autre jour, mais nous voulons être en marche sur ce chemin. On ne veut pas être sur le chemin comme ça, en train de regarder ce qui se passe. Mais nous voulons être en marche sur ce chemin, aller plus loin sur ce chemin, aller jusqu'au bout de ce chemin. Tu es ce chemin, nous voulons aller jusqu'au bout, nous voulons. C'est toi notre passion, c'est toi que nous aimons, c'est toi tout la raison de notre vie, et nous voulons honorer ton nom, glorifier ton nom. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, qu'ils ne se laissent jamais aller au découragement, que rien ne puisse vraiment les déstabiliser, qu'ils soient fermes, tout le temps fermes, en toi, par l'Esprit, dans ta parole, par l'Esprit aussi, ayant cette soif, cette faim, d'aller chaque jour au festin, de lire, d'étudier, de chercher toujours comprendre, à comprendre mieux pour pouvoir vivre mieux au service des uns et des autres et pour te rendre un culte agréable. Merci Jésus de cela. Je te prie pour eux, je te prie pour ceux qui sont sur le net. Je te demande, mon Dieu, de venir à leur secours s'ils sont dans la difficulté et que tu puisses passer en premier dans leur vie afin que les choses qui essayent de les déstabiliser passent loin derrière. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Je peux vous